Radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS French.
Vous écoutez le programme en français de Radio SBS.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h, nous sommes le samedi 10 juin, c'est l'heure du français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme aujourd'hui, nous aurons du sport, nous aurons l'actualité dans le Pacifique et nous aurons un long entretien avec l'ambassadeur de France en Australie, Christophe Lecourtier, qui tire sa révérence pour le pays. On fera le bilan avec lui, c'est plutôt un beau bilan. Mais pour l'heure, on va passer au journal. On commence avec les grands titres de l'actualité pour ce 10 juin donc. Melbourne qui va se doter de plots en béton pour éviter l'intrusion de véhicules dans les lieux fréquentés par le public. La Grande-Bretagne a un nouveau gouvernement et une première ministre affaiblie par le résultat des élections. Et le photographe français qui était détenu en Turquie a été libéré cette nuit. Nous débutons donc ce journal à Melbourne avec cette annonce du premier du Victoria et cette décision d'installer des plots en béton dans les endroits fréquentés de la capitale de l'État afin d'éviter que des véhicules puissent pénétrer dans ces zones. On ne sait pas si cela est en réaction avec de nouvelles informations ou une réaction à l'attaque de Brighton de courant de la semaine. On écoute en tout cas Daniel Andrews, le premier du Victoria.
The threat of terror, the threat of hostile vehicle attacks, the threats to public safety are all too real. And government action in partnership with the City of Melbourne and Victoria Police needs to be swift and needs to be, we need to be vigilant in all manner of different ways, and that's what today's the important bollards that are being put in today, that's what it's all about. It's about doing everything we need to do to keep Victorians safe.
Voilà, donc Daniel Andrews, le premier du Victoria. Du côté de l'enquête sur la prise d'otage de Brighton, donc près de Melbourne, plus tôt cette semaine, eh bien l'enquête avance. Nous avons appris qu'un homme de 30 ans a été arrêté près d'Ascot Vale, donc dans la banlieue de Melbourne. Et la ministre en charge de la sécurité de l'État demande au public, à vous, de ne pas s'alarmer. On l'écoute, la ministre Lisa Neuville.
The person who has been charged with firearm offences, not in relation to terrorism. So the community can feel secure as they go about their business this weekend, as they go about enjoying what Melbourne has to offer. Not only are there police here, but there is no heightened risk in relation to terrorism.
Voilà donc la ministre Lisa Neuville. Direction la Grande-Bretagne maintenant, et au lendemain des résultats chocs de l'élection législative, Theresa May a tout de même pu mettre en place un gouvernement avec une alliance avec un parti d'Irlande du Nord. On écoute Theresa May.
I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days and deliver on the will of the British people by taking the United Kingdom out of the European Union.
Voilà, donc Theresa May, la Première ministre britannique. Alors, vous l'aurez compris, elle est plutôt ou plus que jamais fragilisée par ce résultat. Alors même que l'élection avait été appelée pour renforcer ses vues et renforcer en vue des discussions avec l'Union européenne. Reportage et explication avec Muriel Delcroix depuis Londres.
Appelée à démissionner de toutes parts, y compris dans les rangs même de son parti, huée par des Britanniques en colère à la sortie de Buckingham Palace après un entretien avec la reine, Theresa May a fait la sourde oreille et mis tout le pays devant le fait accompli en décidant de rester à Downing Street. En fin de journée, la dirigeante conservatrice a devant les caméras concédé qu'elle n'avait pas obtenu le résultat escompté et s'est dit désolée pour tous les députés conservateurs qui ont perdu leur siège lors de ce scrutin. Auparavant, visage fermé mais déterminé, la première ministre avait déclaré devant Downing Street qu'elle allait former un nouveau gouvernement avec ses alliés de longue date du DUP, le petit parti unioniste démocrate nord-irlandais, comme si la présence de cette formation aux côtés des Tories était toute naturelle. En réalité, le parti conservateur n'a pas eu le choix et a dû négocier pour obtenir le soutien des 10 députés unionistes d'Irlande du Nord élus jeudi et avoir ainsi une courte majorité à la Chambre des communes. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une coalition mais d'un arrangement plus souple qui permettra aux Tories de faire passer des lois au cas par cas. Néanmoins, beaucoup de voix émettent des doutes sur la longévité de ce gouvernement alors que Theresa May est désormais sérieusement affaiblie.
Voilà donc Muriel Delcroix depuis Londres pour RFI. Alors ce qui a changé dans cette élection, eh bien par rapport au référendum du Brexit, c'est la très forte mobilisation des jeunes, comme nous l'explique ce reportage dans les rues de Bloomsbury de Béatrice Lévier.
Bloomsbury, le quartier des universités à Londres, médecine, politique, art dramatique, on peut tout étudier dans ce quartier. Anna fait une thèse en anthropologie, que pense-t-elle du résultat ?
Au début, j'étais très contente quand j'ai appris le résultat, mais maintenant je m'inquiète car les conservateurs vont revenir à la charge avec leur politique sociale, particulièrement en ce qui concerne les droits des gays. On va voir, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même négatif.
Comme Anna, les trois quarts des étudiants ont voté travailliste, mais Laura, étudiante en politique africaine, a donné sa voix à Theresa May.
Je suis contente qu'on n'ait pas de majorité au Parlement. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. J'ai voté conservateur, mais je pense que les travaillistes vont avoir aussi de l'influence. D'habitude, je vote travailliste. Mais cette fois, j'ai voté conservateur parce que je n'aime pas Jeremy Corbyn.
Le chef des travaillistes a pourtant la cote auprès des jeunes. Jacob, étudiant à l'Académie royale d'art dramatique, a voté pour lui et il n'a aucun regret.
Ça ne s'est pas passé au mieux. Les prochains mois vont être un peu confus et je ne suis pas heureux avec le Brexit. Mais les gens ont voté comme ça, il faut faire avec.
La plupart des Britanniques ne sont pas satisfaits des résultats de ces élections législatives, mais pragmatiques, ils attendent maintenant des solutions de la part de leur gouvernement.
Voilà donc Béatrice Léveillé pour RFI depuis Londres. Une réaction, celle du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il espère que le Royaume-Uni pourra maintenant commencer les vraies négociations sur le Brexit au plus vite. On l'écoute.
First we have to agree on the divorce and exit modalities and then we have to envisage the architecture of our future relations. I do hope that the results of the elections will have no major impact on the negotiations we are desperately waiting for.
Voilà donc le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. 13h07, le jour photojournaliste Mathias Depardon, qui était retenu dans une prison en Turquie, a été libéré après un mois de captivité. Il est arrivé dans la nuit à Paris. Il était accusé par Ankara d'avoir travaillé dans le sud du pays sans aucune autorisation. Écoutez Christophe Paget, qui était sur le tarmac de l'aéroport du Bourget pour l'accueillir à Paris.
Mathias Depardon, fatigué, mais il a dit très heureux d'être en France. Le photojournaliste a remercié tous ceux qui l'ont soutenu pendant son incarcération à Gaziantep, entre autres le président de la République française, Emmanuel Macron, qu'il a eu ce soir au téléphone, son comité de soutien, son avocat en Turquie et Reporters sans frontières. Ce qui est compliqué dans ce genre de détention, a-t-il expliqué, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va être détenu. Je savais que ça pouvait durer jusqu'à un an. Il a expliqué qu'il était à l'isolement dans le centre où il était retenu, avec 15 minutes de promenade par jour. Les conditions de détention était très proche d'un centre pénitentiaire. Les contacts avec les autorités françaises n'ont été possibles qu'à partir de 12 jours de détention. Les autorités françaises qui ont tout fait pendant ces 12 jours pour entrer en contact avec le photojournaliste. Mathias Depardon, vous l'avez dit, accusé de soutien, en tout cas de propagande d'une organisation terroriste, le PKK, suite à des images qu'il avait postées sur les réseaux sociaux. Mathias Depardon qui nous a expliqué que les autorités turques étaient toujours en possession de ces deux appareils photo et d'un carnet de notes. Rappelons que le photojournaliste a été retenu un mois alors qu'un avis d'expulsion avait été émis à peine quelques jours après son arrestation. Pour lui, les autorités turques voulaient envoyer un message fort auprès des journalistes étrangers et turcs qui veulent faire des sujets dans le sud-est de la Turquie. Mathias Depardon a d'ailleurs envoyé un message de soutien à ses confrères emprisonnés en Turquie, mais aussi aux migrants avec qui il a été retenu dans le centre de détention de Gaziantep.
Voilà donc Christophe Paget depuis le tarmac de l'aéroport du Bourget à Paris. Écoutez également Christophe Deloire qui est secrétaire général de Reporters sans frontières.
C'est d'abord un immense soulagement, une joie au lendemain d'une visite à Gaziantep. Moi je viens de débarquer à Paris d'un avion d'Istanbul. J'étais hier à Gaziantep avec la mère de Mathias Depardon au centre de rétention. Nous avions des signes que ça pourrait aller vite. Et en fait, ça a été très vite après cette visite. C'est une joie, une satisfaction extrêmement intense. Ce qui a débloqué la situation, je crois, c'est un travail de longue haleine, de conviction, de mobilisation, de dénonciation, qui a été aussi, je crois, utile. Il fallait savoir trouver les mots. Faire tout un travail souterrain, faire aussi tout un travail public, et c'est ce qui a été fait, et ça a fini par payer. Je voudrais quand même rappeler que normalement, Mathias Depardon n'aurait pas dû passer une journée en détention. C'est donc la fin d'une situation anormale, mais Voilà, c'est la fin d'une situation anormale et ça, c'est quand même un sacré soulagement.
Voilà, donc Christophe Deloire, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières. Donald Trump qui demande formellement au Qatar d'arrêter de financer le terrorisme. Le président américain qui soutient donc le point de vue de l'Arabie saoudite et de ses alliés dans ce dossier. On l'écoute.
The time had come to call on Qatar to end its funding. They have to end that funding and its extremist ideology in terms of funding. I want to call on all of the nations to stop immediately supporting terrorism. Stop teaching people to kill other people. Stop filling their minds with hate and intolerance. I won't name other countries, but we are not done solving the problem, but we will solve that problem. Have no choice.
Voilà, donc le président américain Donald Trump. L'Arabie saoudite qui a d'ailleurs publié une liste de 59 personnes et de 12 organisations liées au terrorisme et qui seraient financées donc par l'Émirat, ce que le Qatar dément catégoriquement. Alors, qui figure sur cette liste? Réponse par le chercheur Stéphane Lacroix, spécialiste de la région à Sciences Po Paris.
Cette liste, elle contient à la fois des djihadistes identifiés comme tels et connus comme tels. Hein. On va retrouver des Koweïtiens ou des Qataris qui sont connus pour avoir été depuis longtemps des financiers du djihad en Syrie. On va trouver un certain nombre de figures plutôt liées aux frères musulmans. Youssef Al-Qardaoui, qui est la principale autorité, peut-on dire, de la confrérie des frères musulmans, qui est au Qatar, qui s'était fait connaître pendant pas mal d'années parce qu'il animait une émission religieuse très regardée sur la chaîne Al Jazeera, qui avait pris parti pour les printemps arabes de manière très marquée depuis sa plateforme télévisuelle, etc. Donc lui va se retrouver dans la liste. On va retrouver aussi des figures de l'islamisme libyen assez proches des frères musulmans. On retrouve ce que les Saoudiens et les Émiriens cherchent à faire depuis le début, c'est-à-dire à mettre dans le même sac, dans une espèce de catégorie islamiste au contour un peu lâche, aussi bien les djihadistes que les frères musulmans, ce qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres.
Voilà donc Stéphane Lacroix de Sciences Po Paris. 13h12, coup d'œil météo à travers le pays. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 15 degrés. Hobart, 15. Canberra, 15. Sydney, 19. Brisbane, 22 degrés à Brisbane. Cairns, 25. Et Darwin, un toujours très agréable 30 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité de ce 10 juin. Melbourne qui va se doter de plots en béton pour éviter l'intrusion de véhicules dans les lieux fréquentés. La Grande-Bretagne a un nouveau gouvernement et une première ministre affaiblie par les résultats de l'élection. Et vous l'avez entendu, le photographe français qui était détenu en Turquie a été libéré. Voilà, 13h13, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le journal des sports. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench